vous écoutez Historama, l'histoire d'un jour. Aujourd'hui, le 13 juin 1602, la disgrâce de Charles de Gontaut-Biron. Le 13 juin 1602, à 6h du matin, Henri IV, entouré de ses proches, attend dans le parc de Fontainebleau Charles de Gontaut-Biron. Descendant d'une noble lignée du Périgord, duc et pair de France, lieutenant général des armées royales, gouverneur de Bourgogne, il est son plus ancien compagnon d'armes. Le maréchal est convoqué pour s'expliquer à propos d'une vaste conspiration fomentée contre le roi par l'Espagne et la Savoie. Elle vise à assassiner Henri IV et à se débarrasser du dauphin âgé de 2 ans, en déclarant nul le second mariage du Vert-Galant pour lui substituer le jeune Gaston, fils né des amours du Béarnais avec Henriette d'Entragues, marquise de Verneuil. Henri IV vient d'obtenir la preuve irréfutable de la félonie de Gontaut-Biron. Un exemplaire du traité d'alliance signé de sa main qui le lie à l'Espagne et à la Savoie. Ce document prévoit le partage de la France entre les deux États, Gontaut-Biron recevant la Bourgogne érigée en principauté indépendante. Le document a été transmis au roi par Jacques de Laffin, agent secret du duc de Savoie. Henri IV est dans l'obligation de sévir. Cependant, l'affaire est délicate. Outre sa profonde amitié pour le coupable, le souverain doit tenir compte de sa grande popularité. Enfin, sa propre maîtresse est susceptible d'être impliquée dans le complot. Aussi, le souverain opte pour une franche explication amicale qui, pense-t-il, conduira l'accusé à avouer son crime. Il pourra ensuite lui accorder son pardon. Gontaut-Biron s'enferme dans le mensonge jusqu'à l'absurde. Il affirme n'entretenir aucune connivence avec la Savoie et l'Espagne. Bien loin de se disculper, il se fait accusateur en affirmant « Sire, j'ai apporté à votre majesté ma tête qui répondra de mes actions, mais je la supplie aussi de me faire raison de ceux qui peuvent m'avoir accusé faussement. » Henri IV insiste en lui promettant son pardon. « Je n'ai pas besoin de pardon, répond hautement le maréchal, puisque je n'ai pas offensé. » Le roi est consterné. « Jamais je n'ai aimé personne comme je l'ai aimé. Je lui eusse confié mon fils et mon royaume, confessera-t-il plus tard. » Gontaut-Biron est persuadé que son vieux compagnon d'armes n'osera pas s'en prendre à lui. Au cours d'un ultime entretien, Henri IV déploie en vain toute sa séduction. « Je sais tout, parle, Biron, c'est ton ami qui t'en prie. » Le maréchal s'obstine dans ses dénégations. Le roi finit par le congédier d'un laconique « Adieu, baron de Biron », qui le ramène à sa condition initiale avant qu'il soit couvert d'honneur et de gloire par la volonté royale. Au soir du 13 juin, Gontaut-Biron est arrêté et conduit à la Bastille. Jugé par le Parlement de Paris, il se défend avec intelligence et noblesse, niant toutes les accusations portées contre lui. Le 26 juillet 1602, convaincu de haute trahison, il est condamné à mort, à la confiscation de ses biens et à la suppression de son duché péri. Henri IV s'est montré inflexible. Il a seulement accordé au maréchal qu'il ne subisse pas le déshonneur d'une exécution en place de Grève, mais dans l'enceinte de la Bastille. Cette décision est aussi suggérée par la prudence en raison de la crainte d'un mouvement populaire en faveur du condamné. Le 31 juillet, Gontaut Biron est décapité dans des conditions peu glorieuses, vomissant des injures contre Henri IV. Il dément l'intrépidité qui le caractérisait jusqu'alors. Au lendemain de son décès, des troubles éclatent en province, à Paris. La foule afflue en l'église Saint-Paul où la dépouille mortelle est déposée pour l'asperger d'eau bénite. L'influence est telle qu'il faut interdire l'accès au lieu de culte. Quelques années plus tard, Jacques de Lafin est assassiné à Paris sur le pont Notre-Dame par un tueur recruté par la famille de Gontaut Biron. La vengeance est assouvie. Nous allons marquer une pause musicale dans cette émission Historama avant de retrouver la chronique littéraire Un jour trois livres qui a été préparée par Emmanuel. C'est Karl Orff et c'est Carmina Burana qui illustrent musicalement cette émission. Nous écoutons Fortuna Imeratrix Mundi. Écoutez Historama, l'histoire d'un jour, la chronique littéraire, un jour trois livres, en commençant par un roman de Jean Raspail, Les Royaumes de Borée, publié aux éditions Albin Michel. Une frontière aux confins septentrionaux de l'Europe court au nord et à l'est, sur quelques 470 lieues, traverse d'interminables forêts, des plaines spongieuses semées de lacs couleur de plomb. Elle enjambe des marécages et des rivières torrentueuses, roulant vers des destinations incertaines. Au-delà s'étend la Borée, une contrée dont on ne sait rien, sinon qu'elle est le royaume d'un petit homme, couleur d'écorce, qui manie l'arc et le javelot, mais que nul n'a jamais approché. Nul ne sait son nom. Un survivant d'un monde révolu, une lumière dans notre propre destinée. Les royaumes de Borée, de Jean Raspail, c'est aux éditions Albin Michel. Toujours Jean Raspail, mais il s'agit maintenant d'une biographie. Jean Raspail, aventurier de l'ailleurs, de Philippe Hemsen, avec une préface de l'académicien Éric Orsenna. C'est publié aux éditions Albin Michel. À l'occasion du centenaire de la naissance de Jean Raspail, cette première biographie menée comme un roman d'aventure par Philippe Hemsen nous ouvre la vie et le cœur d'un aventurier hors pair, redécouvreur des civilisations perdues, qui laisse une œuvre riche de plus de 30 livres et d'une quinzaine de romans. On bourlingue à travers toute la terre en même temps qu'on pénètre les raisons des combats de Jean Raspail, sa volonté de préserver toutes les civilisations, les Alakaluf, les Indiens d'Amérique, les Ainus, les Incas ou les peuplades des îles. Observer et ressentir et comprendre que l'important est ailleurs, toujours ailleurs. Jean Raspail avait fait sien ce credo. Jean Raspail, aventurier de l'ailleurs, c'est signé Philippe Hemsen, c'est préfacé par l'académicien Éric Orsenna et c'est publié chez Albin Michel. Toujours chez Albin Michel, Jenny le Magnifique de Stéphanie Desors. La famille Agnelli ne ressemble à aucune autre. La mère est une héroïne pré-raphaélite. Le père semble tout droit sorti d'un roman de Scott Fitzgerald. Virginia et Edoardo Agnelli ont 7 enfants. Gianni est le second. Il est beau, impertinent, malicieux. Il aime sa mère plus que tout au monde. Gianni grandit, s'engage sous les couleurs italiennes, fascistes donc, mais c'est auprès des alliés qu'il fête la victoire. Quelques années plus tard, sur la Riviera, c'est casino et cocaïne, entouré des plus belles femmes, dont Pamela Churchill ou Jackie Kennedy. Il est le plus chic, le plus beau, le plus vain et le plus fragile. Son intime blessure correspond au sentiment de ne pas être digne de l'empire Fiat créé par son grand-père. Gianni le Magnifique de Stéphanie Desors s'est publié aux éditions Albin Michel. Ainsi s'achève cette émission Historama. Merci à Thomas qui l'a réalisée et nous allons nous quitter en musique avec Karl Orff et c'est Carmina Burana. Nous écoutons Primo Verre, Ecce Gratum. Yeah.
Thank you.